Pour une nouvelle semaine en compagnie de celui qui nous délivre notre dose de bonne humeur quotidienne. Bonjour, monsieur Laurent Ruquier.
On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Christine Bravo, Titoff, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak, Fabrice Séboué. J'espère que vous avez passé un bon week-end, tous et toutes qui nous écoutez, mais vous aussi, chers chroniqueurs. Ça a l'air, Pierre, hein, vous êtes en forme.
Très bon week-end. Oui.
Tiens, il y a Gladys, une auditrice, qui trouve que vous ressemblez à Richard Nixon dans le film Frost Nixon, L'heure de vérité. C'est vrai que vous avez un petit côté Nixon.
Oui, d'accord.
Un auditeur pense que vous ressemblez à Barack Obama, Fabrice.
Bien sûr, la comparaison était plus simple.
Hein. Plus à Nixon.
Et moi, je ressemble pas à une fiancée de John Kennedy, cherchez bien, Marilyn Monroe.
Faut bien chercher quand même. Hein.
Petit con.
Même pas entendu qu'on cherche d'ailleurs.
Ouais, bah, ouais, je me suis dit, ça va prendre de plomb.
Bah oui, c'est marrant. Moi j'étais là à faire la liste des salopes et puis je. Ouais,
toutes les nanas qui s'est cognée un peu bourrée.
C'est marrant, bah c'est pas Marilyn Monroe qui m'est venue tout de suite, vous voyez. Mais pourquoi pas. Je voulais vous dire un petit bonjour de Taïwan, m'écrit Arthur. Je sais que ma famille vous regarde avec le podcast. Nous adorons Titoff ici à Taïwan.
Oui, mais parce qu'il regarde. Hein.
Est-ce que Monique Pantel est la mère de Claude Sarraute, demande Marcel.
C'est possible.
On ne sait pas, on fera des recherches. Un test ADN est nécessaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin dans les mails? Un petit mot, Laurent, pour vous dire que j'adore votre émission. J'ai un faible pour Fabrice Éboué. Son esprit tordu, ses vannes cruelles, injustes, mais jamais dénuées de bon sens. Sa mécanique, d'ailleurs, est toujours la même. 1. La perche se tend. 2. La vanne tombe. 3. On entend « Oh, Fabrice !» 4. Un chuintement. Et le nombre de indique l'énormité de la vanne. Mais qu'il ne change rien, on adore cette mécanique. C'est vrai, c'est une bonne analyse.
Non, ça. Fabrice.
Quand même que vous sachiez, exactement, chers auditeurs, qu'on répète tout d'abord, hein, quand même. Hein, donc
sûr.
Je fais des « Oh, Fabrice !» alors que je sais pertinemment ce qu'il va dire à l'avance.
Moi, j'ai remarqué, quand il dit une horreur, je ris en mettant ma main devant la bouche comme s'il fallait pas rire, du coup.
Je viens de tester votre recette de pâte au salami, m'écrit Olivier. Oui, vous voyez, ma recette fait un tabac partout en France. J'ai juste ajouté de la crème fraîche, du basilic et du jus de citron.
Bah, oui, c'est
du
Marcel.
Oh putain, que c'était bon.
Il trouvait ça trop léger, peut-être, juste des pâtes et du salami.
Ah, c'est incroyable, quand même. Merci, Laurent, d'avoir parlé du très bon film Slumdog Millionaire, que je suis allé voir ce week-end.
Millionnaire.
À vous, je partage, je le dis comme je veux. Je partage votre avis sur ce film. On a beaucoup de mails d'auditeurs qui sont allés ce week-end voir ce film sur les conseils avisé de Monique Pantel. Nous sommes allés voir en famille Slumdog Millionnaire. Le film est formidable, de la première scène jusqu'au générique final. Grosse bise. Merci encore de nous avoir encouragés à aller voir ce film. Ça, on est content quand les auditeurs nous suivent comme ça. Mmh. Hein, on verra si les deux auditeurs, par exemple, qu'on a en ligne, vont écouter nos conseils. Chantal, qui habite le Kremlin-Bicêtre. Bonjour, Chantal.
Bonjour.
Le Kremlin-Bicêtre, comment on appelle les habitants du Kremlin-Bicêtre?
Les Kremlinois.
Elle est Kremlinois. C'est très joli.
Ouais. C'est très très joli.
Qu'est-ce que vous faites au Kremlin? Enfin, Bicêtre. Hein.
J'habite au Kremlin, sinon je travaille à Paris. Je suis assistante.
Assistante de quoi?
Je travaille dans une ambassade. Ambassade des États-Unis.
Ambassade? Bah ça, c'est formidable d'habiter le Kremlin et d'être à l'ambassade des États-Unis. Faut quand même le faire. Chantal, vous affronterez Christophe qui habite Évry.
Ouais, salut.
Ouais, voilà. Ouais, salut Christophe.
C'est le meilleur que j'attends là.
C'est plus élevé que le Kremlin. Hein.
Christophe, le roi de la toffe. Salut Christophe.
Je suis aux Alpes 2000 là, et j'ai une descente de snow à faire là, donc allez, faut que t'arraches.
Ah, vous êtes en vacances au sport d'hiver?
Ouais, un petit week-end sympa.
Vous avez bien raison.
Ouais, mais là on est lundi là.
Il faut rentrer maintenant, Christophe.
On part demain pour l'Alpe d'Huez, nous. Alors, pour faire l'émission.
Il y a des mini tempêtes. En tout cas, pour les parigots ici, c'est une mini tempête. Hein.
Ah, c'est une mini tempête. Donc, vous êtes un vrai parigot, vous.
Ouais, exactement. Ouais.
Et vous faites du snow.
Exactement, ouais.
Et alors, la poudreuse est bonne?
Ah, elle a l'air, ouais.
Bah, avec la neige qui tombe assez violemment, là, c'est pas mal.
C'est pour ta femme aussi?
Neige?
Ma femme, non, c'est à la maison.
Ah ouais? Bah oui, c'est pas un week-end, ouais, sinon.
Attends, faut bien s'amuser un petit peu, Dan.
Donc, c'était un super week-end, alors.
Ouais, exactement.
Aux Arcs, donc.
Aux Arcs, ouais. 1800, 2000, 1006, on fait tout, là.
Et le week-end, la poudreuse, c'est pas dans le pif, hein, qu'il faut s'amuser.
C'est ça, ouais.
C'est sous les skis. Et le week-end, il est sympa parce que t'es à la montagne ou c'est parce que t'es sans ta femme?
Je suis sans abri, surtout.
Ah, c'est-à-dire que vous couchez chez l'habitant?
Exactement.
Bon, alors attention, vous allez devoir maintenant répondre à cette question, Chantal et Christophe. Nicolas Préau a déclaré « C'est comme dans un couple, quand c'est cassé, c'est cassé ». À propos de qui Nicolas Préau a-t-il fait cette déclaration ?« C'est comme dans un couple... »
Casimir.
Pas Casimir. C'est comme dans un couple quand
Il faut pas répondre n'importe
c'est
quoi.
C'est le jeu. Le jeu,
c'est un rapport avec Astérix ou pas du tout?
Pas du tout. C'est comme dans un couple quand c'est cassé.
C'est de la politique.
C'est un rapport avec Sarkozy?
Aucun rapport
avec
Sarkozy.
Est-ce qu'on connaît ce monsieur? Est-ce que tout le monde connaît ce monsieur ou il y a que moi?
Non, c'est Piaget, Villeneuve avec
Aucun rapport avec Charles Villeneuve et le PSG.
C'est un acteur?
Est-ce que c'est un rapport avec l'équipe de Nantes?
Du tout.
C'est de la politique?
Nicolas Préau, évidemment, on ne connaît pas bien, mais il a un job important.
Il a son mot à dire, Nicolas Préau. Hein,
c'est un rapport avec?
La natation.
Oui.
Oh, c'est Manodou.
Non, je sais. Alors allez-y, c'est vous l'avez dit, Christophe.
C'est Manodou, c'est l'ancien petit copain de Manodou, son entraîneur.
Non,
c'est Manodou et la marque Arena. Et la marque de combinaison.
Et donc Nicolas Préau, c'est
le directeur marketing de la marque Arena.
Oh, ça va, toi.
Le directeur de chez Arena et leur Manodou. Bonne réponse de Jérémy Michel.
Bonne réponse de Christophe. Merci.
Non, Christophe, vous avez trouvé.
Merci.
Christophe, vous avez trouvé la natation, c'est vrai, mais.
Oh, le sponsor.
Non, moi, je trouve qu'il est pas loin du.
C'est moi qui ai trouvé la natation. Ouais, non, Fabrice, je l'entends, il me dit non, je suis un fan de lui, vas-y. Faut pas que tu me descends.
Ouais, mais si tu viens à mon spectacle et que t'es cuit à la coke comme ça dans les spectateurs, ça va.
Moi, je monte sur scène et on fait un duo.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que je crois que Christophe a été le premier à dire natation.
Oui. Ah non, c'est moi.
Ah bon, alors donc.
Oh non, j'ai dit Manodou.
Alors donc, il n'y a pas de gagnant. Voilà. Fabrice, vous pouvez peut-être lui offrir deux places pour votre spectacle quand même. Hein.
Allez, alors, une seule place.
Chantal, tout va bien?
C'est sûr que t'es vraiment aux arcs.
Je suis déçue parce que c'est moi qui ai demandé si ça avait un rapport avec la natation et en plus, je l'avais lu.
On vous offre une deuxième place pour Fabrice Eboué.
Ils ont qu'à venir tous les deux.
Je suis venu le voir le mois dernier, mais ça me dérangerait pas de revenir, évidemment.
Ah, vous êtes déjà allé voir Fabrice Eboué?
Oui.
En payant?
J'ai adoré, d'ailleurs. Oui.
Oh, ça, c'est con.
Mais je crois qu'il reste 10 Français aussi, qui n'ont pas vu le spectacle en tout.
C'est très cher, d'ailleurs.
Bah alors écoutez, Christophe, on vous offre des places pour aller voir Fabrice Eboué.
Oh, c'est gentil.
Et moi, Chantal, je vous offre des places pour Je me voyais déjà, qui reprend au Comédia à partir du 12 février, d'accord?
Vous êtes sympa.
Il vaut mieux perdre, alors.
Allez, on vous embrasse tous les deux.
Et on joue avec l'actualité sur Europe 1. Tout ça grâce à vous, Laurent Ruquier.
Qu'est-il arrivé ce week-end à Max Boublil et aux Pussycat Dolls?
Oh, il était au Energy Award.
Ils se sont trompés. Ils lui ont donné au pauvre la mauvaise enveloppe. Il a annoncé que Katy Perry avait gagné un prix et c'est Rihanna qui avait gagné.
Bonne réponse de Caroline Diamant. Réponse que Pierre n'aurait pas su donner. Reconnaissez-le.
Oh, si, ça je dois dire. Non, mais parce que quand l'événement aussi capital m'échappe, ça me fait douter de mes facultés. Mais comment?
Connaissez pas les Pussycat Dolls?
Je connais pas les Pussycat Dolls. Bah, demandez-leur, tiens, si vous connaissez pas.
Il y en a une qui est avec le champion de
Formule 1. Lewis Hamilton.
Hamilton.
Bien sûr.
Et Max Boublil, c'est un humoriste qu'on a eu ici, en plus.
Il est formidable, Max Boublil. Puis avec un nom comme ça, il peut pas ne pas être formidable, t'as une.
Et voilà, ils étaient là, ils devaient annoncer, évidemment, qui obtenait le titre l'Energy Music Awards de la chanson internationale de l'année. Eux, on leur a donné l'enveloppe dans laquelle a été écrit Kate Perry. Alors, c'est normal, ils ont annoncé Kate Perry. Non, c'est pas leur faute. Mais Katy Perry, en fait, c'était le nom de la gagnante pour le tour suivant. Voilà, parce qu'elle a gagné quand même un autre titre, Katy Perry. Mais après, on a dû lui dire que le premier trophée, c'était pas pour elle. Voilà, le second trophée, meilleur album international, ça c'était bien pour Katy Perry. Mais le premier, c'était en fait pour Rihanna. Vous voyez, qui c'est Rihanna?
Bah oui, elle a eu le premier trophée. Alors que
pas du tout.
C'est autre chose.
Tu aimerais bien pourtant, parce que c'est une jolie fille.
Mais oui.
Jeune, métisse, belle fesse.
Belle fesse. Vous croyez que je regarde ces trucs-là, moi? Erreur.
Remarquez, l'autre aussi est pas mal, Katy Perry, dans le genre.
Oui, bah, un petit peu, ouais.
Oh, bah, je préférais qu'elle tombe dans mon lit que le tonnerre, quand même. Cette, la Katy Perry, elle est pas mal.
Oh, mais ça, avec cette expression, tu pourrais l'emballer, hein.
I would prefer you in my bed than the storm.
Là, c'est emballé pesé, hein.
L'année dernière, vous y étiez, vous avez remis un prix, Titoff.
L'année dernière, l'année d'avant aussi. C'est sympa, hein, comme soirée.
Ouais, racontez.
Ouais. Oh ben, il y a des grandes coulisses, il y a plein d'artistes. C'est assez sympa.
Je crois qu'ils voulaient pas t'inviter au début. Ils se sont trompés d'adresse. Ils te l'ont envoyé à toi. Du coup,
ouais, les deux années d'affilée. Ouais. Ceci dit, je suis dorénavant. Enfin, je doutais un petit peu. Et là, maintenant, je suis un vrai fan de Nikos.
Ah oui.
Oh, je trouve que pour présenter ce genre d'émission, il y a pas mieux.
C'est vrai, d'ailleurs.
Et c'est pas ironique du tout, hein. C'est vrai que les premières années de la Starac, je disais quand même, il avait des attitudes, je sais pas.
Non, mais il est dingue.
Comment on peut. Et là, maintenant, je trouve qu'en plus, il se prend pas au sérieux, il est là, il fait.
Ah bah,
c'est
vrai,
quoi. Il a une énergie incroyable. Et on en a vu plusieurs avant à Energy Music Awards, justement, qui se sont cassés les dents. Et lui, cette année, j'ai pas tout vu et je zappe un petit peu, mais il a une énergie incroyable, quoi.
Ah bah, vous zappiez avec Marseille Le Hack?
Je zappais. Non, je zappais pas parce que j'arrivais pas à brancher, j'ai déménagé, j'arrivais pas à brancher, numéricable pour avoir aussi plus. Donc j'étais assez énervé. Heureusement que j'ai un ami qui était pour le Havre, hein, qui vient d'ailleurs du Havre, le petit Bougnat.
Hein, non, pas le petit Bougnat.
Le petit Bougnat.
Ou le Roukmout.
Ou le petit Pouilleux.
C'est pas un Roukmout.
Tu me fais pas un assemblage des deux. C'est Caillot Roukmout. Comment t'as dit? Le petit Bougnat.
C'est en Auvergne, les Bougnats.
Ah, c'est pour ça que je n'ai rien à voir. C'est pas un Bougnat. Alors là, je suis pas d'accord.
Non, on est contre.
Non, là on est contre. Tu le traites pas de Bougnat.
petit Pouilleux, tu peux.
Oui, Bougnat, petit Caillot. Pouilleux aussi.
Petit Caillot. Voilà, on s'est envoyé quelques textos.
Voilà, parce que le Hack a encore perdu ce week-end.
C'est pas vrai.
Ah non.
C'est un pléonasme de dire le Hack a perdu.
Mais pourquoi tu continues à regarder, à te faire du mal?
Parce que
arrête de te faire du mal.
T'es contre Marseille, je me disais, on sait jamais.
Moi, je me dis une chose et que j'ai pensé vraiment sérieusement hier. Le Hack, bon, pas perdu. S'il gagne trois matchs, c'est que il peut rester en division 1. Cela dit, je crois que le nouveau président qui va racheter le club, eh bien, c'est le petit Caillot.
Ah bah alors attends.
Moi, je suis sûr, je le vois très bien, président du Hack. Est-ce que ça t'a effleuré ou pas?
Non, mais il y a une vanne de Pierre Ménez hier soir sur Foot Plus, sur 100% Foot. M6 qui a fait la vanne, il a dit oui, c'est Laurent Ruquier qui va racheter le Hack.
Non, c'est pas vrai.
Il m'a dit,
écoute, je te jure. Je l'avais pas entendu. Est-ce que ça t'a effleuré?
Non, mais c'est vrai que c'est Dorasso l'autre jour qui derrière la vitre a dit je ferais bien une OPA sur le Hack pour acheter. Est-ce que tu me suis? S'il y va, j'y vais.
Et on peut acheter des joueurs et tout après. Si c'est
ah oui, moi je veux bien acheter un joueur.
Moi je veux bien acheter. Voilà.
Vous récupérez Gourcuff, je paye la moitié.
Arrête,
la moitié du bas. Voilà.
C'est Rachel.
La taille au pied, je prends.
Ça va leur faire un choc aujourd'hui avec des joueurs roses.
C'est malade que c'est Rachel Dorasso, il va y avoir que des Brésiliens.
Écoute,
tu mets Michalak en vestiaire pour la troisième mi-temps.
Pierre Bénichou en coach.
Ah oui.
Pierre, vous voulez bien être entraîneur?
Bah, bien sûr, c'est normal. Ça allait sans dire. J'irai avec mon sifflet, allez les gars.
Oh, je vous vois. Je vous vois sur le banc.
À 6h du mat.
Pierre, à 6h du mat. En jogging. Ouais. Vous savez quoi? Il n'y a pas Castel, Pierre. Comment vous allez faire?
Oh, il va trouver autre chose.
Il est drôle avec ce Castel. Mais qu'est-ce qu'il sent drôle?
Claude
Sarraute. C'est marrant. C'est
Claude Sarraute en pom-pom girl.
En chef des hooligans.
Ah oui. Oh non, ça serait génial.
À qui ça appartient d'ailleurs? Est-ce qu'on sait à qui ça appartient?
Je sais pas moi à qui ça appartient. Déjà au PSG on a du mal à savoir. Alors franchement, vous avez vu le pauvre Charles Villeneuve qui va être viré.
Oh, ça me fait une peine, moi je pouvais pas savoir. Parce que Nikos et Charles Villeneuve, je suis un peu comme Titov, c'est les deux types que je préfère, je trouve les plus formidables. Non mais quand on pense qu'il a dit Nikos, il est formidable, je parle sérieusement.
Moi j'adore Nikos.
Il a dit Nikos et je parle sans ironie. Comment peut-on parler sans ironie quand on parle de Nikos?
Justement, mais je le fais.
Non, là je suis pas d'accord.
Justement.
Tu n'as pas le droit, c'est un mec formidable.
Ouais. Ah bah je sais pas, peut-être qu'il est gentil avec sa mère.
Non.
Mais il est grotesque à la télévision. C'est un mec formidable, peut-être qu'il fait des dons, peut-être que tout ça. Mais je trouve qu'il pisse sur mon intelligence. On va dire mieux.
Non, il pisse pas dans le vide.
Un New Yorkais qui s'appelle Justin Nozuka, c'est son premier album Holly qui sortira le 2 février prochain. After Tonight est sa nouvelle chanson. Alors vous allez me dire, tiens, mais on le connaît pas. Oui, mais vous savez que Europe 1 est toujours la première radio en France à diffuser des découvertes. Et Justin Nozuka en fait partie. New Yorkais, After Tonight.
On va gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Titoff et notre Jérémy Joujou Michalak.
Qui Qu'est-ce qui se passe autour de la table? On continue à parler de...
Non, parce qu'ils sont... ils en reviennent pas que je suis réellement fan de Nikos.
Mais non,
je disais,
non,
c'est beau quand d'accord. il part et qu'il fait des petits pas chassés comme ça avec de l'énergie.
C'est vrai, il saute, il moi, fait des pas que... de cabri, il fait des petits sauts dans
Nikos
tous les sens. Mais oui,
et
sur ses lancements.
Il a l'habitude de la
peut-être loin, qu'il a la même poudreuse que l'autre là aux...
Oui, j'ai l'impression, ouais. Wow, c'est tombé sur Cannes ce week-end.
Non, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qu'il y a?
Mais je trouve incroyable qu'à chaque fois qu'un animateur a de l'énergie, on le soupçonne de prendre des produits. Nikos ne prend absolument pas
bien
de produits.
Bien sûr, c'est une blague.
Ça, je le soupçonnerai jamais de faire un truc comme ça. C'est un truc pour intellectuels.
Allez, une question politique. Si je vous dis que madame Claude Greff, qui est députée UMP d'Indre-et-Loire, a été choquée par le comportement du socialiste Jean Malot quand il s'est levé de son siège pendant les débats ce week-end, débat, vous le savez, sur la réforme justement entre le Parlement et le gouvernement, la réforme, on va dire, des suspensions de séance, des amendements, des tout ce qui fait traîner le vote des lois. C'est qu'en ce moment il y a cette réforme du travail législatif qui est en cours, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des députés, enfin la plupart, donc quelques députés sont restés à travailler samedi, mais ça a été très houleux. Les nerfs ont lâché, nous dit-on même à l'Assemblée ce week-end. Et alors, qu'aurait fait donc Monsieur Malot à Madame Greff, d'après elle?
Un doigt d'honneur?
Non.
Il a dit quelque chose?
Non. Quelque chose de vulgaire?
Ah bah elle dit que c'est vulgaire. Hein.
C'est peut-être celui qui avait pas assez de sous-vêtements pour le week-end, là?
Alors là, il n'est pas tout seul, là, d'ailleurs, celui qui n'avait pas assez de sous-vêtements pour le week-end, Monsieur Dosière. Il y a un autre député, Monsieur Jean-Jacques Urvoas, qui lui est du député UMP du Finistère, qui s'est plaint lui aussi de ne pas avoir assez de chemises, de chaussettes et de slips. Et il est allé au Bon Marché entre deux...
C'est super.
Entre deux débats pour s'acheter des slips supplémentaires.
Est-ce qu'il lui a fait un signe, vous savez, quand on fait avec la main, genre tais-toi, ferme ta gueule, qui est pas très sympathique?
Ça a été des mots ou un geste?
Alors elle dit que c'est un geste qui ne lui a pas plu.
Geste. Bon, c'est pas un bras d'honneur, c'est pas un doigt d'honneur.
Non, pas son
cul. Il s'est tué les testicules?
Oui, alors.
Il s'est gratté les
couilles. Ouais, c'est ça, il s'est gratté Il a fait un geste obscène avec son sexe. Ouais, voilà, c'est ça.
Il a fait un geste en se prenant.
Il a soupesé ses testicules.
En se prenant le bas du pantalon et il lui a dit fume? Non.
Oh!
Non, c'est rare.
Pierre, un intellectuel.
T'as même Nikos,
ah ben, moi, voilà la différence entre.
Même ça. Nikos l'aurait pas fait.
Non, mais Nikos, il est pas grossier, il est vulgaire.
Il lui a montré sa braguette. Bonne réponse collective.
Oui, c'est vulgaire.
Non, c'est honteux.
Ah oui, c'est honteux. Oui, c'est
comment il a pu lui montrer sa braguette?
Ah oui, c'est obscène. Oui.
Monsieur Jean Malot se récrit, hein. Il dit non, c'est pas vrai, je n'ai eu aucun geste déplacé. Je remontais simplement mon pantalon et je reboutonnais ma veste.
Je reboutonnais ma veste.
Voilà.
Bon, cela dit, c'est un geste que les hommes font tellement souvent. Ah ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas intentionnel.
Et c'est pas sexy, hein. Bon, il faut qu'ils arrêtent de le faire, ça.
Ah bon? Oui, sauf quand on vous le demande. Sinon, ah bon.
Quand quelqu'un fait ça, tu dois lui dire, bah arrête de les compter, il y en a que deux. Je te parle comment qu'on dit dans le peuple. Pas chez les mecs là. Comment que tu l'appelles? Yagos là, tout ça. C'est Jean Saint-Pin. Tapette de Marseille.
Non, là, attends, moi je t'ai rien dit.
Tapette de Marseille. Enfin.
Non. Il faut dire de l'Estac alors.
Non, t'as pas le droit.
Vous nous adorez Titoff, mais depuis quelque temps, je peux plus le supporter.
Depuis que je suis fan de Nikos, ça y est.
Quoi que vous avez peut-être raison. Hein. Je trouve que dans cette émission, les choses commencent à s'inverser. Parce que moi, j'ai quand même regardé le foot samedi soir. Voilà, comme un vrai mec. Quoi. J'ai regardé le foot Marseille-Le Havre. Et pendant ce temps-là, vous savez ce qu'il m'a dit, Titoff? Il m'a envoyé un texto, il m'a dit « J'arrive pas à recevoir Numéricable, je crois que j'allais me saouler en bas dans un bar gay. »
Oui, parce que j'habite dans le Marais, voilà, au cas où on l'aurait pas compris.
Et je te signale qu'il est en train de tomber amoureux d'un grec.
Oui, c'est vrai que c'est bizarre. C'est peut-être parce que j'attends un enfant, ça doit être ça. Je m'en remets en question.
T'attends un enfant, bah tu prendras ce qu'on te donne du bar. Hein.
ça, c'est minable.
Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer?
Question sport, pas vraiment, hein, c'est sport et people en fait.
Ah, alors oui. On a des chances.
Si je vous dis que voici, tout heureux de nous montrer sur deux pages, Christophe Pina. Et
c'est sûr,
c'est pas un verbe conjugué.
Il eut de la chance.
Mais justement, Christophe Pina n'est pas tout seul sur ces deux pages. Ah. Donc voici. Christophe Pina qui?
Alors,
bah, Normand Doudou, normalement.
Oh non! Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qui est Christophe Pina?
Alors, c'était le prof de sport dans la Star Academy.
Ah, d'accord. Oui,
alors, Ecosse, attends.
Donc c'est Armand Altaï.
Non.
Armand Altaï et Christophe
Pina. C'est Stéphanie de Monaco.
Comment vous le savez?
Non.
Bonne réponse, de Christine, bravo.
Non. Je vous crois pas. Non, je vous crois pas.
Mais oui, enfin, ils disent pas qu'ils sont ensemble. Ils disent que elle est proche de son coach. Ah bah oui, et on voit des photos où effectivement ils font rien que de faire du sport, hein, rien d'autre. Ils ont beau lutter, une force irrésistible semble les attirer l'un vers l'autre.
Ah, ça c'est vrai. Hein.
Il lui a beaucoup fait travailler sa souplesse, mais c'est par une bonne vanne qu'il arrive à la plier en deux. Oh là. Au risque de choquer les curieux et de bousculer l'étiquette, ils n'hésitent pas à prendre leurs pieds en public. Et là, on les voit, vous savez, prendre leurs pieds quand ils font des.
On s'étire.
Quand voilà, ils s'étirent ensemble. Ils sont rigolos dans Voici avec leur légende quand même. Christophe est passé du château de la Starac au palais de la princesse de Monaco. Bon, alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont vraiment ensemble?
Oh, moi je crois, moi.
Ah oui.
Moi je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
Mais
hein.
Est-ce que franchement le prince Albert va accepter que sa sœur sorte avec un monsieur qui s'appelle Pina?
Oui, Madame Pina.
Ouais, attendez, elle va pas
Madame
se marier.
Pina.
La princesse Pina. Ah,
j'avais pas
joli.
Pensé à ça. Si elle se marie, ça c'est vrai que Stéphanie de Pina. C'est quand même pas mal. Moi, j'adore lire les articles dans Voici parce que c'est quand même très bien écrit. Il faut dire ce qui est. Hein. Non, mais franchement, avec la nouvelle année, Stéphanie de Monaco a pris de bonnes résolutions. Pour commencer, et parce qu'elle ne comprend pas qu'on abandonne quelqu'un à sa souffrance, elle a décidé de continuer à s'occuper le plus possible de ses associations, comme elle l'a récemment déclaré au magazine Vogue, dont elle a fait la couverture. Bon. Parce qu'une belle âme n'est rien sans un corps sain, la princesse a décidé d'entretenir sa silhouette. À bientôt 44 ans, elle s'est offert les services d'un coach, et pas n'importe lequel. Christophe Pina est 4 fois champion du monde de karaté, 6 fois champion d'Europe. On va peut-être arrêter nos conneries alors. Mais surtout, il est le prof de sport de la Star Academy.
Et ouais.
Avec un tel palmarès, Steph pouvait lui faire confiance pour la remettre à niveau.
Ouais. Qui continue à nous emmerder, je vais lui mettre une tarte, il va aller sur son cul. Tiens, tu vois.
Le coach des stars lui a concocté un programme musclé. Training en ski à Oron, la station préférée de Stéphanie, suivi quelques jours plus tard d'une heure et demie de jogging au bord de la mer avec séance d'étirement sur la digue du port de Fontvieille. Épuisée, mais heureuse, la princesse n'a pas boudé son plaisir et c'est dans un grand éclat de rire qu'elle a oublié la fatigue et les douleurs. L'effet cri-cri, sûrement. Car depuis leur rencontre, les deux sportifs se montrent particulièrement complices. C'est là, c'est là qu'on se dit,
ils sèment le doute.
Je crois qu'il y a Anguille,
particulièrement complices, là on se dit, il y a Anguille sous le rocher. Hein. Au fil des jours, la silhouette de la princesse se sculpte et son sourire est de plus en plus rayonnant. Christophe Pina est entré dans sa vie comme un ouragan. Et Stéphanie n'a pas...
Ah, comme un ouragan,
ouais.
C'est à cause de la chanson, ça, qu'ils mettent ça. Je suis sûr.
Et Stéphanie n'a pas l'intention de se passer de ses services.
Oh. C'est beau, hein.
C'est beau, hein.
Ah ouais. Mais on peut écrire soi-même ses articles, maintenant, dans Voici.
Pourquoi?
J'imagine...
Non, mais moi, j'aime bien les amours naissants. Ah, c'est chouette, beau. Un amour qui naît.
C'est très joli.
Ouais, ouais. C'est vrai, moi, c'est un amour qui naîtra jamais entre mon coach et moi.
Pourquoi?
J'en ai pas.
Vous devriez en prendre un, franchement.
Oh non,
ouais.
Attendez.
Si, franchement, vous devriez en prendre un.
On va gêner, c'est maintenant, et c'est jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier.
À une petite phrase, à vous d'en trouver l'auteur, qui a dit « J'ai envie de montrer que j'existe encore au cas où des gens penseraient que je suis mort. »
Stéphanie Monaco ?
Non.
Ça marche, hein.
Par rapport à l'article.
C'est quelqu'un d'âgé, a priori ?
Oh non, pas très vieux. Non,
quelqu'un dont on parle plus.
55 ans. Quelqu'un dont on parle
55
moins.
55 ans ?
Ouais. 55 ans.
Sabatier ?
Non, pas Sabatier. On reparle de lui, Patrick Sabatier, quand même.
C'est un chanteur ?
C'est un chanteur. J'ai envie de montrer que j'existe encore au cas où des gens penseraient que je
Salvatore
suis mort.
Salvatore et Adamo ?
Non, il est plus âgé, Salvatore.
Bah, excusez-moi de pas avoir...
Mais il a des points communs avec Salvatore et Adamo.
Il est Frédéric François ?
Non, mais pareil, point
c'est
commun.
Dans ce genre.
Il est italien.
Origine italienne, sicilienne.
C'est le chanteur.
Claude Barzotti.
Comment vous avez dit ?
Claude Barzotti.
Claude Barzotti, bonne réponse de Jérémy Michalak.
Je savais même pas qu'il était né, moi. Alors,
oh,
pas...
Claude Barzotti est à l'Olympia ce soir après une longue absence et il se confie sur son parcours dans France Soir. Bonjour Claude Barzotti.
Bonjour Laurent. Je suis bien né, hein, il y a longtemps malheureusement.
Et oui, Pierre Bénichoux, alors bravo. Hein.
Oh, bah, j'adore Claude Barzotti. Alors s'il y a un mec que j'adore, c'est Claude Barzotti qui vient de pas me chercher Caruso, Yves Montand et tout ça. Barzotti! Barzotti! Bien sûr.
Deux concerts exceptionnels à l'Olympia après une longue absence. Vous allez chanter vos grands tubes, évidemment.
Bien oui, je pense que les gens sont d'abord là pour les tubes, ensuite... on en profite pour y mettre deux, trois nouvelles chansons, quoi.
Claude Barzotti à l'Olympia ce soir et demain, vous allez chanter le Rital ?
Oui, là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de chanter toute ma vie.
Vous connaissez le Rital ?
Non, bah, c'était laquelle, c'était laquelle déjà ?
Ah, aussi, allez-y, Jérémy.
Bah non, mais non, oui. Je sais pas où chanter le Rital.
Je suis Rital et je le reste.
Eh oui, quand
dans
même.
Et dans le geste. Allez-y, Claude, faites une petite démonstration du Rital.
Vos 16 ans sont devenus miennes, mais ma musique est italienne.
Eh ouais, énorme tube. Et aussi, je ne t'écrirai plus.
Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien.
C'est lui. Hein.
Oui, vous avez une fin très célèbre avant la personne de Mathilde Seigné, si je ne m'abuse.
Exact. Il faut dire que le film Camping a relancé vos tubes, Claude Barzotti.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance qu'ils ont remis dans le film.
Bon. Les Italiens sont obligés de faire une imitation d'Al Pacino en permanence. Ça devient ridicule au bout d'un moment.
C'est vrai. Ça. Pourquoi ce point commun souvent entre les chanteurs italiens, c'est vrai aussi Toto Cutugno par exemple, d'avoir ce comme un gravier dans la gorge en quelque sorte.
Je n'en sais strictement rien. Je pense qu'on boit beaucoup, on sort beaucoup. C'est ça, je n'en sais rien.
Même les Italiennes aussi, c'est ravissant d'ailleurs.
D'ailleurs, vous avez intitulé votre concert « Je reviens d'un voyage ». Et ce voyage, c'est un voyage particulièrement spécial puisque vous ne cachez pas être tombé dans l'alcool, avoir arrêté maintenant depuis quelques années, mais avoir eu du mal à vous en remettre de ce voyage-là.
Oui, tout à fait. En fait, c'est mon parcours. Ceci dit, je n'ai jamais arrêté de chanter. C'est-à-dire que j'étais beaucoup moins médiatisé.
Vous auriez mieux fait d'arrêter de boire.
C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Mais il y a une époque où, en fait, vous étiez plus bourré que les salles dans lesquelles vous chantiez.
bien sûr. oui, tout à fait. Mais j'ai quand même jamais arrêté. J'ai eu la chance de toujours avoir beaucoup de spectacles. Donc, j'ai toujours fait une centaine de galas par an. Mais c'est vrai que j'étais tombé dans le piège de l'alcool.
Vous dites, j'ai pris plus de 10 kilos à cette époque-là. Un jour, je suis tombé, je me suis cassé deux côtes, ainsi que le poignet et un pied. Et là, j'ai décidé immédiatement d'arrêter de consommer de l'alcool. Désormais, je ne bois plus une goutte. Et c'est ce qui nous vaut votre grand retour.
Mais j'espère. Je ne sais pas si ce sera un grand retour, mais je serai... Je pense que j'avais abandonné un peu mon public et maintenant je reviens pour de bon.
Il y aura... C'est dans le cadre de la tournée Ricard, c'est ça?
Deux Olympia, il y aura un CD, un DVD, une captation du spectacle de ce soir et de demain soir.
Tout à fait.
On vous souhaite bien sûr un excellent retour sur scène, Claude Barzotti, parce que vos chansons effectivement sont des tubes qui ont été aimés du grand public et vous chanterez des nouvelles chansons aussi ce soir.
Parce que j'en profite pour chanter trois ou quatre nouvelles chansons, voilà. Et comme d'habitude, je fais donc un final toujours spécial qui ne sera pas sur disque, que personne ne connaît. Une chanson ou deux classiques.
C'est une bonne idée d'avoir remplacé l'alcool par le cannabis, vous pensez?
Et non, je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Et j'ai bu mon premier verre d'alcool à 33 ans.
Et 33 ans à cause du succès, évidemment, et détourné tout simplement.
C'est-à-dire que c'était la peur de monter sur scène, voilà.
On vous souhaite un bon retour après cette longue absence, Claude Barzotti. C'est que dans vos chansons, moi, celle que je préfère, c'est celle qui s'appelle Madame. C'est une très jolie chanson. Et c'est celle-là qu'on va écouter maintenant sur Europe 1. Vous la chanterez ce soir à l'Olympia ?
Évidemment.
Ce soir et demain à l'Olympia, Claude Barzotti, qu'on peut encore applaudir.
Merci beaucoup.
Vous écoutez On va gêner sur Europe 1 avec un Laurent Ruquier très en forme et tous ses acolytes aussi d'ailleurs.
Elle les veut tous, hein.
Elle les veut tous.
Ouais.
Christine. Hein.
Bah ouais. Hein.
Mangeuse d'hommes.
Oh là là.
Elle est en train de draguer Fabrice Eboué.
Grave. Regarde sa petite croix.
Tout en détachement.
Ça va plaire à mon père.
Je ne sais pas ce qui va se passer à l'Alpe d'Huez à partir de demain, mais ça va être chaud là-bas.
Moi, je suis bien content de pas y aller. Ça va être un drôle de foutoir là-bas, dis donc.
On va d'ailleurs appeler tous les auditeurs qui habitent l'Alpe d'Huez et sa région à venir évidemment assister à l'émission. Ouais. On sera en direct tous les jours jusqu'à vendredi, de mardi à vendredi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en direct de 16h à 18h à l'Alpe d'Huez.
Non, mais on peut leur dire, vous pouvez venir écouter l'émission et voir vos chroniqueurs préférés à part, jusqu'à 18h et à partir de 18h, chambre 28 à l'hôtel des Alpes, il y a un bon coup qui a un nom espagnol. Ah,
Ha 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 ha! El Ruquiero.
Sans dire qui, rien du tout. Non,
non, El Ruquiero.
El Ruquiero.
Non. Un nom espagnol.
El Diamantino, peut-être.
El Ruquiero.
El Ruquiero.
El Ruquiero. Ça y est, il va être espagnol, le caillot.
El Cayo, El Cayo.
El Cayo. El Cayo.
El Cayotino.
Et il ne skie pas.
Non mais s'il y a bien un endroit où on peut pas vraiment draguer, parce que alors, s'il y a bien un endroit où on n'est pas élégant, où
d'accord.
on est moche,
c'est le,
on est, c'est le ski. On est là avec des moufles, un cache-col. Remarquez-moi, ça m'arrange qu'on me voit pas. Mais enfin, mais enfin franchement, on est en mitouflé, on pèse 100 kilos de plus, on vient de bouffer de la tartiflette.
Ah, arrête, la raclette. Prononce pas ce mot de tartiflette devant moi. Non, non, mais c'est horrible.
Tout ah non, mais je suis d'accord. Il y a guère qu'en boîte sur.
Il y a plus que les pauvres qui vont au sport d'hiver. Maintenant, ah oui, on est à nous sport d'hiver. Les enfants respirent, mais qui crèvent vos gosses.
Heureusement qu'on n'emmène pas Pierre Bénichou à l'Alpe d'Huez.
J'y fus il y a deux ans. Pire souvenir de ma vie.
Ce sera salle Philippe de Broca au Palais des Sports et des Congrès. Salle Philippe de Broca au Palais des Sports et des Congrès de l'Alpe d'Huez. À signaler que c'est dans le cadre du festival du film Comédie. Il faut dire que l'année dernière, le festival de l'Alpe d'Huez avait couronné Bienvenue chez les Ch'tis, bien avant évidemment que le film ne sorte en salle. Et on peut quand même dire qu'ils avaient eu du pif, parce que c'est un film dont on a un peu parlé après, hein. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc on leur souhaite, on va dire, le même flair cette année au Festival de l'Alpe d'Huez. Et on sera sur place de mardi.
Mais on va être obligé d'aller voir des films.
Ah bah, c'est un plaisir d'aller au cinéma, non?
C'est comme je disais au Festival de Cannes, j'ai pas vu vos films, je me suis baigné. Non,
bah oui. Une question politique. Nicolas Sarkozy, samedi soir, est allé au Casino de Paris pour applaudir qui?
Julien Clerc, qui chantait avec Carla.
Il est allé applaudir sa femme qui chantait en duo avec Julien Clerc. Bonne réponse de Christine Bravo et Caroline Diamant.
Il a été l'applaudir ou l'a surveillé, on sait pas.
non mais vous voyez De Gaulle, qu'est-ce que vous faites ce soir, mon général? Bon, je vais
voir Véronne, ma femme.
Non, je vais au Casino de Paris. Ah tiens, pourquoi faire? Je vais y voir ma femme qui s'y produit. Non mais sérieusement, t'es la femme du président de la République au Casino de Paris. Et ta mère en short aussi, non? Mais ça va pas.
C'est normal puisqu'elle est chanteuse. Yvonne de Gaulle n'était pas chanteuse, Pierre.
Mais oui.
Oui, d'accord, mais enfin quand même.
Elle était tricoteuse. Alors elle restait chez elle à tricoter.
Au moins, s'il avait épousé Piaf, il pourrait faire de la boxe maintenant. Mais ça
En tout cas, le président de la République était très présent encore tout le week-end hein, sur, on va dire, la scène internationale, puisqu'il a réussi à emmener avec lui Madame Angela Merkel jusqu'au Proche-Orient pour tenter de régler le conflit. C'est bien ce qu'il fait, mais il devrait être un peu plus modeste. Hein, c'est ça le truc.
Ça, j'avoue que c'est inouï, quoi, comme performance physique. C'est hallucinant. Ah,
franchement, à part Nikos, personne ne peut les gagner.
Heureusement que
plus, il tape le Casino de Paris en plus de faire le.
Non mais c'est vrai.
C'est absolument inouï.
Non mais c'est vrai. Il est quand même incroyable. Il est partout à la fois. Vous avez raison, Pierre, de souligner que être au Casino de Paris pour applaudir son épouse chanteuse, puis après être dans l'avion avec Angela Merkel, à réussir à faire une déclaration. Ouais, enfin, c'est
vraiment ce qui se passe à Gaza est intolérable. Et en sortant du Casino de Paris, mais c'est incroyable. Alors moi j'ai une explication là-dessus. Mais... c'est que Mitterrand m'avait donné un jour. Un jour, j'ai demandé, il y avait 14 escales en Amérique du Sud, hein, et j'ai dit, vous êtes pas trop fatigué? J'ai dit, il me dit, c'est vous, à vous, qu'il faut demander ça. Alors, je dis, pourquoi à moi? Il dit, parce que pour vous, c'est fatigant. Vous portez votre valise d'un quart jusqu'à l'hôtel, après ça, de l'autre chose, vous allez chercher vos valises.
C'est pas cool.
Nous, me dit-il, nous sommes très aidés. Et c'est vrai que Sarkozy, par exemple, il entre dans son Boeing, il se couche, il prend une douche, il se change de costume, il descend, une voiture l'attend là. C'est beaucoup, ça n'a rien à voir.
Il passe pas la douane. Non, mais t'as raison.
Il pilote pas Sarkozy.
Pardon ?
Il pilote non, pas il son pilote avion. Pas.
C'est Nikos qui pilote. Okay.
non, mais c'est vrai. Alors c'est que il est très actif, on peut pas lui reprocher. Mais alors, il devrait arrêter de le dire qu'il l'est. C'est ça le truc.
Ouais, oui, c'est ça.
On ne peut pas attendre que les États-Unis aient froid pour mettre un cache-col. A-t-il dit. Il faut agir vite. Je me suis impliqué quand je pense que vous disiez qu'à la fin de ma présidence européenne, j'allais subir une dépression profonde, que je serais incapable de prendre des initiatives. Vous voyez, il faut qu'il souligne
mais
ce qu'il fait.
Mais oui, il est obligé, c'est l'exhibitionnisme. Ça, c'est exactement comme les gosses qui s'habillent en rouge, ils disent « Regarde, je suis habillé en rouge !» Mais on le voit bien que t'es habillé en rouge. Il faut qu'ils le disent, quoi.
Et d'ailleurs, il y a un dessin de Rançon qui est très très drôle dans Le Parisien aujourd'hui, où on voit Nicolas Sarkozy sur un ring. D'un côté du ring, on imagine que c'est un soldat israélien. De l'autre, un terroriste du Hamas, et au milieu Sarko qui fait « Je déclare l'arbitre vainqueur ».
C'est exactement ça, ce dessin est magnifique.
C'est un bon dessin de Rançon en tout cas qu'on peut encore applaudir. On se retrouve après le flash.
Laurent Ruquier,
Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff sont toujours là depuis 16h et jusqu'à 18h pour vous faire passer, je l'espère, un bon moment. Et j'espère que ce sera votre cas aussi. Catherine. Catherine habite Andernos-les-Bains. Bonjour Catherine.
Bonjour.
C'est en Gironde, Andernos-les-Bains.
Oui, sur le bassin d'Arcachon.
Eh oui, ça doit être très joli, j'imagine.
Très joli.
Et quel temps fait-il aujourd'hui?
Pas très beau, justement.
Aïe, 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 aïe. On peut encore manger des huîtres en ce moment?
Ah oh, oui, oui, là, en plus, la bonne saison, là.
Pourquoi c'est la bonne saison?
Parce que c'est l'hiver, elles sont meilleures l'hiver.
C'est les mois en air. Faites quoi dans la vie, Catherine?
Pas grand-chose, je prends du bon temps, je me promène sur le bassin.
Vous enfilez les perles.
C'est ça. Prends soin de son huître.
Voilà.
Oh non,
c'est joli, ça.
Fabrice. Alain, lui, nous appelle depuis Montréal. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Que faites-vous là-bas au Québec?
Oh, moi je suis un vil marchand de tapis.
Quel genre de tapis vous vendez?
Oh, des tapis d'édition, des tapis d'art, de la création.
Vous êtes tapissier?
Non, pas tapissier. Non,
c'est vendeur de tapis.
C'est un autre métier.
Ah, c'est un autre métier. Vous vendez des tapis.
Tu fabriques pas des radios, toi?
Ça, c'est bien envoyé. Non, mais c'est vrai. Parce que parfois, c'est nous qui posons les questions, con. Mais pour une fois, c'est vous.
Qu'est-ce qui est
fabrique des radios.
Ah, le caillot. Ah, ouais.
Non, mais je pourrais dire un petit mot à Pierre Bénichou.
Oui, bien sûr, Alain.
Oui, parce que chaque soir, c'est au fond de mon exil, après avoir bravé le froid, la neige, l'adversité du quotidien, il me vient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Qu'est-ce que ça rend chiant, le Québec, putain.
Et quand Pierre Bénichou mentionne sa maman, cela m'évoque une sorte de Madeleine, la Madeleine de Proust, celle de la rue des Écoles, qui m'a donné le goût des études, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et qui, grâce au cours dirigé par sa maman, j'ai connu mon épouse il y a 33 ans et qui est d'ailleurs la petite cousine de sa tante Janine.
Oh, voilà. Écoutez, merci. C'est moi, je suis très ému parce que quand on parle de ma maman, c'est vrai que ça m'émeut. Mais oui, elle dirigeait un cours privé, rue des Écoles.
Oui,
et
oui.
Et il y a beaucoup de jeunes couples qui s'y sont connus parce qu'on faisait pas seulement école.
Oui, c'est ça. Absolument.
On faisait cabaret et chambre. J'essaye de masquer par la vulgarité, l'émotion que j'ai. En tout cas, je vous embrasse comme vous aimez.
Alain. Mais autant d'études pour finir vendeur de tapis, tu nous prends pour des cons, quoi.
Au Canada.
Oui, au Canada en plus.
Et mais Fabrice est allé à l'école avec mon fils au collège au lycée Édouard Branly, je crois.
D'accord.
Un autre sur Marne, c'est vrai.
Donc oui, mais c'est un auditeur inquiétant.
Catherine, rassurez-vous, hein, il n'y aura pas de favoritisme, mais il faudra quand même répondre à cette question qui vient, qui n'est pas si simple. En 1993, Hillary Clinton a fait interdire quelque chose, et cette interdiction, Barack Obama pourrait y contrevenir.
C'est lié à l'avortement,
Il faut une réponse précise.
Alors, la pipe à la Maison Blanche.
Pardon?
Elle a fait interdire la pipe à la Maison Blanche.
Non, pas la pipe, pas le cigare, mais...
Lié à l'avortement ou pas? Lié à l'avortement?
Alors, vous avez dit quoi?
La pipe, donc, le tabac.
La cigarette?
La cigarette où ça?
Dans la Maison Blanche.
La cigarette dans la Maison Blanche. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Bah non.
Le cigare, toi.
Vous ne le saviez pas, Catherine?
Et non, pas du tout.
Ah là là là.
Pas du tout. J'avais bien révisé, mais pas ça.
C'est qu'en pleine campagne, Barack Obama avait promis à son épouse Michelle qu'il arrêterait de fumer. Mais il a essayé. Hein, il mâchouille des chewing-gums à la nicotine. Mais de temps en temps, il avoue craquer encore quelques fois. Et il se pourrait que de temps en temps, il fume à la Maison Blanche. Sauf que... personne n'y a jamais refumé depuis 1993.
Oh, okay.
L'interdiction date de la présence d'Hillary Clinton, non seulement à la Maison Blanche, mais en tant que ministre de la Santé au gouvernement, elle avait pris cette décision, évidemment. Et c'est vrai que Barack Obama est un peu embêté.
Bon, vous avez raison, il est le président des États-Unis, il est tranquille à son bureau, dans son bureau ovale, là, tranquille, il se prend une clope, il y a quelqu'un qui va lui dire « t'es gentil, t'écrases ».
Ah, il y a deux choses, le truc c'est qu'on sait qu'il fume. personne n'a eu une photo de lui avec une cigarette. C'est donc qu'il est vachement discipliné. Et deuxième chose.
Tu connais pas Photoshop pour te retirer la cigarette.
Sur Photoshop, mettons, il y a quelqu'un en train de fumer et t'effaces la cigarette. Ouais. Ça fait une belle attitude, quoi, avec la bouche comme ça en cul, comme ça.
Avec les deux doigts devant.
Il y a autre chose, c'est une publicité pour la cigarette, ce mec-là, parce que regarde Madame Clinton. Elle est toute grosse et tout parce qu'elle fume pas et lui regarde s'il est mince.
Catherine, Alain, on va vous remercier. Pardon, ce sera pour une autre fois.
Oui, d'accord. Bisous à tout le monde.
Vous embrassez tout le monde à Andernos-les-Bains et vous aussi à Montréal, Alain.
Oui, bah oui, en pleine dépression. Merci.
Au revoir.
Au revoir à tous les deux, on vous applaudit.
Et c'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier.
Europe 1, on va se gêner. La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons.
24 secondes pour l'instant, vous avez toujours gagné à cette question. Hein. Ouais. C'est pas facile en 24 secondes.
On n'est jamais passé pour des cons dans cette émission.
Jamais.
Jamais.
Alors, si je vous dis que ce tableau s'appelle Ouzor, ce qui veut dire broderie, qu'il a été peint en un quart d'heure seulement, mais ce n'est pas sa seule particularité. Quelle est son autre particularité?
La personne qui l'a brodé, qui l'a peint.
Oui.
C'est quelqu'un qu'on connaît?
Oui, évidemment.
Quelqu'un de très très célèbre?
Stevie?
Très célèbre.
Français?
Pas français.
Un acteur?
Un acteur, non.
Américain?
Américain, non.
Russe?
Russe.
Poutine,
bonne réponse de Caroline et Jérémy. En 24 secondes, hein, ils ont gagné encore. Hein,
on a failli avoir l'air con.
Ouais.
Vladimir Poutine, effectivement, a participé à une vente aux enchères de tableau au profit d'une bonne œuvre, hein, distribuée à deux hôpitaux pour enfants. L'argent récolté est l'argent qui, effectivement, a été donné par ceux qui voulaient acheter ces différentes toiles. Au total, 37 millions de roubles, 860 000 euros. Euros.
De francs.
Non. 860 000 euros, c'est le prix qu'a atteint la toile signée Vladimir Poutine. C'est quand même dingue.
Tu peux la voir?
Ah non, elle est très moche, hein, autant vous dire. Il l'a pas en un quart d'heure, hein, quand même. C'est terrible.
Hein. Ça a été vendu aux enchères?
Ça représente une fenêtre de la maison d'un village agrémentée de voilages brodés. C'est une œuvre unique. C'est la première et probablement la dernière de ce peintre.
Tellement c'est moche.
Marqué, on peut peindre un très beau tableau en un quart d'heure. Hein. C'est pas le temps qui compte.
Ça dépend, parce qu'à un moment donné, si vous voulez mettre un luxe de détail, un quart d'heure, c'est quand même très très court. Et en plus, si on n'est pas doué, enfin,
ça dépend depuis combien de temps on peint. Et oui, le Picasso avait fait.
Ce que vous dites assis, je peux le dire debout.
Mais non, mais non.
T'as vu, vous enfilez les perles.
Mais pas du tout. Picasso avait dit une chose formidable. Il a dit, évidemment, quelqu'un lui paye un tableau, un milliard, je sais pas quoi, et puis c'était un dessin comme ça. Et on lui dit, mais combien de temps vous avez mis pour le faire? Il dit, 70 ans, madame. Ouais. C'est ça, donc si c'est un peintre, il peut faire un quart d'heure s'il peint depuis 50 ans.
Ça me rappelle une anecdote que j'avais eue avec François Mitterrand, on revenait d'un voyage tous les deux.
Mais il est con, je vais l'avouer. Une autre question, on oublie la toile de Poutine. Pour parler d'Alain Blackman, il est le seul à exercer ce métier dans Paris. Et si on interroge aujourd'hui dans Le Parisien, c'est à propos d'une nouvelle mode, ou plutôt d'une mode qui revient. Laquelle?
Oh là. Est-ce que c'est lié à un mode de déplacement?
Du tout.
Ça se porte sur soi.
Alain Blackman.
Ah, est-ce que ça a rapport avec son nom?
Est le seul avec son nom?
Mais non. Oui.
C'est son vrai nom ou c'est un nom...
C'est son vrai nom, je pense à Monsieur Blackman. C'est le seul à exercer ce métier dans la capitale et il est interrogé aujourd'hui dans Le Parisien à cause d'une mode qui revient.
C'est des vêtements.
Cireur de chaussures?
Non.
Non. Mais est-ce que c'est le seul parce que son métier a disparu et lui c'est le dernier? Ou est-ce
que... parce que c'est vrai que c'est un métier de plus en plus rare.
Il fabrique des boutons de manchettes?
Non, pas du tout.
Il fait un métier manuel, parce que ce sont souvent les métiers qui ont disparu.
C'est manuel.
Et ça revient à la mode.
Et ça, voilà. Alors, c'est un métier manuel. Est-ce qu'on porte sur soi ce qu'il fait?
On n'est pas obligé de passer par lui, même si on suit cette mode. Mais lui, en tout cas, est le dernier à exercer ce métier-là, qui est lié à ce renouveau.
Alors, il change quelque chose, il apporte une modification à des objets.
Non, du tout.
Non.
C'était un métier très répandu à une période ou pas?
Oui.
Ok. Est-ce que c'est pas un mec qui rase? Qui rase? Un barbier?
Un maître barbier?
C'est pas le seul.
Et oui. Ah, c'est le seul maître barbier de la capitale.
Eh ben voilà les mecs.
On sert ça tout de suite, mais il y en a.
Bah non, parce que les autres font coiffeur aussi. Et lui doit être que maître barbier.
Lui il est que maître barbier. Les autres font coiffeur.
Maintenant que j'habite dans le Marais, dans toutes les rues il y a un barbier.
Mais non, toi tu t'es fait épiler, mais c'est pas ça. Rien. Tu t'es.
Il faut le maillot, pas la barbe.
Et c'est à propos de quelle mode évidemment?
Eh ben la mode de la moustache qui revient.
Bonne réponse de Caroline Diamant. La moustache est à nouveau à la mode. Grâce à Georges Clooney, grâce à Brad Pitt, grâce à Romain Duris, grâce à Vincent Cassel, grâce à Guillaume Canet, grâce à Johnny Depp. Grâce à Isabelle Alonso, grâce à...
Ça marche toujours, hein. C'est... Ouais. C'est toujours.
Ah bah vous avez la moustache.
Grâce à Lourdes.
Non, non, non. Moi, j'ai la barbe, c'est différent.
Ah oui, mais quand on a la barbe, on a la moustache.
Ah non. Ah oui, non, mais là, on parle différent. De la moustache seule.
Jérémy a un peu la petite moustache.
Ah bah non, c'est,
non, c'est pareil. Il essaye.
Mais lui, il est content. Dès qu'il a un poil qui pousse, il le laisse pousser, tu sais.
C'est j'ai fait ma puberté à 26 ans, donc si tu veux, je les garde, mes poils.
Sagamore Stévenin, Jean Dujardin s'y sont mis aussi.
Oui, pour des films.
Oui, mais il la garde après le film. Et c'est vrai que la moustache, on la voit de plus en plus en ce moment. Vous êtes pas là. Vous avez remarqué, vous aussi.
Oui, moi, j'avais remarqué. Bah, c'est vrai qu'on a remarqué, on voit partout Brad Pitt en photo sa moustache.
Ça vous plaît,
non. Alors écoute, je sais pas, pour les hommes qui ont un très grand espace entre le haut de la lèvre et le nez, je trouve qu'effectivement ça meuble intelligemment.
Mais non,
maintenant, je ne sais pas si ça chatouille ou pas.
T'imagines Bénichou à moustache, c'est pas possible, attends. C'est beau un mec imberbe. Non, mais c'est vrai, c'est beau un mec imberbe. Pourquoi vous rajoutez des poils?
Il y a les motards. Hein, les gendarmes, ils ont jamais quitté cette mode, par contre.
Les gens qui portent la moustache, c'est des gens qui veulent se faire une tête, qui veulent se composer un visage. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de, au mât dans le marais, il y a tellement de gens qui ont des moustaches. Ils croient que ça fait viril.
C'est un signe d'autorité.
Ils croient que c'est pas, la moustache.
Demandons à Titeuf qui habite le marais, alors Titeuf.
La moustache, c'est le bodybuilding.
J'ai croisé beaucoup de moustachus.
Ah non, c'est fini, la moustache chez les gays.
C'est plus, c'est pas du tout, c'est pas fini du tout.
C'est les village people.
La moustache et le bodybuilding sont l'apanage des gens pas sur deux.
Non mais depuis Wayne,
mais même j'en ai vu un l'autre fois avec un casque, tout ça, la moto.
Il avait un Indien derrière lui.
Ouais, ouais, mais ouais. Alors moi j'ai commencé à rigoler, mais c'était vraiment un flic en fait. Hein, non, je...
Les contrôleurs.
Tu as mis une main au cul, c'était un flic.
La tête de con de Georges Clooney avec la moustache, ça prendra jamais cette mode, non.
Non.
Non, même Georges Clooney il est moche quoi, avec la moustache.
C'est bien fait.
Il faut essayer, cela dit.
Moi je sais pourquoi ça prendra pas, mais c'est...
Pourquoi ça prendra pas la moustache? Ah si, dites-le.
Ah non.
Ah si, dites-le.
Ah non, non, non.
Pourquoi ça prendra pas?
Ah non, non, c'est impossible.
Titoff.
Pour rebondir sur Caroline, pardon.
Ah oui, elle rit, la Christine. Ah. Allez, vas-y, remets la clé.
Allez, il y a de la place. Hein.
Pourquoi vous voulez rebondir sur Caroline?
Non, 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 parce que elle vient de dire ça prendra jamais. Donc, c'est vrai que les filles se font. J'avais remarqué ça quand j'étais célibataire, que les filles.
C'est bien
souvent.
C'est bien de désamorcer. Ouais.
À chaque fois, il est obligé de préciser.
Quand j'étais célibataire, il y a encore deux mois.
C'est vrai que les filles, j'ai remarqué, se faisaient beaucoup le ticket de métro, enlevé, épilé, tout ça. Donc si un mec laisse pousser la moustache, je trouve qu'il y a un truc
c'est comme un scratch.
Ouais, voilà.
Ça fait velcro.
Ça fait anachronisme, quelque chose de asymmétrique.
On est plus raccord, quoi, vous voulez dire.
Déjà, le ticket de métro,
tu voulais dire, Caroline, ou pas?
Absolument, absolument.
C'est pas dans le même sens.
C'est pas dans le même sens.
T'as déjà vu une fille se faire épiler le maillot
à l'horizontale?
À l'horizontale.
Mais tout à fait, Christine, bien sûr.
Arrêtez de vous m'exciter, là. J'ai ma carte Navigo qui commence à... Un peu de musique avec... Alors, je sais pas si on dit Matcon, Matcon.
Matcon.
Ah, vous connaissez, vous?
Ouais.
Il connaît tout, ce joujou, hein. La chanson s'appelle Begin. C'était un tube l'été dernier.
Ah oui.
Eh ben, il serait temps que je m'y mette, alors.
Non, mais tu vas reconnaître, c'est sûr.
Matcon, Matcon.
Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour.
Et sors de la cave, remonte Serge.
Je te le fais si tu veux. Bonjour.
Ah d'accord, vous le faites Titoff, puisqu'il n'est pas là. Bonjour Serge.
Bonjour l'équipe, bonjour tout le monde.
Bonjour mes collègues, mais qu'est-ce que c'est ça?
Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent, et là j'ai un peu de mal à croire quand je vois la liste, que tout cela est possible. Les Beatles, François Valéry, Dorothée et les Musclés.
Ah ouais. Et oui, et encore un groupe américain, The Offspring. Alors, c'est tout simplement pour prouver que la chanson Obladi Oblada, qui date de 1968, a fait des enfants.
Donc François Valéry, Dorothée, les Musclés et The Offsprings, tout ça part d'Obladi Oblada.
1. Desmond as a baron in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. 2. Hier soir j'ai rêvé que j'étais très vieux, assis dans le rocking chair du salon. J'avais des cheveux blancs, un air très sérieux. Je leur donnais des conseils en oubliant.
Comme chaque année, je suis partie en vacances. Mais cette fois-ci, ce n'était pas en France. J'ai décidé pour une fois de sortir de nos frontières pour voir s'il y a
Why Don't You Get a Job. Ça, c'est vrai que ça ressemblait à Obladi Oblada. En revanche, Dorothée et les musclés, je suis moins sûr.
Les mêmes harmonies.
Vous dites ça parce que vous n'aimez pas Dorothée, alors qu'elle fait pleurer encore dans les chaumières. Moi, je la regarde parfois le soir.
Tu sais que toi, ça va pas du tout, hein, le caillou. Hein. Tu m'as dit l'autre fois que tu commençais à devenir accro à Saint-Tropez. Là,
sous le soleil.
Sous le soleil. Et maintenant, Dorothée, je pense qu'il y a un problème avec le caillou. Non, mais ne riez pas, parce que tu devrais passer un petit scanner, quand même.
Il aurait pas une moustache, Serge Liadeau ?
Oui, absolument, j'ai une moustache, oui.
Et alors ?
Alors, je suis à la mode, c'est bien.
Non, c'est ça, faut pas rêver non plus. Est-ce que vous avez vu, Serge, aujourd'hui, dans Le Parisien, cette page entière consacrée à Manu Dibango, qui attaque Michael Jackson en justice ? Il avait déjà gagné contre Michael Jackson à propos de l'emprunt de sa chanson Soul Makossa dans l'album Thriller, mais comme il se trouve qu'il y a eu des remixes, comme on dit depuis, et que certains chanteurs ou chanteuses comme Rihanna se sont servis du succès de Michael Jackson et qu'on y retrouve encore Manu Dibango et qui touche toujours rien, il continue à râler quoi, en quelque sorte.
Il a raison de râler, et c'est pas la première à avoir emprunté à Michael Jackson en étant persuadé que c'était une chanson de Michael Jackson. Il y a eu aussi Jennifer Lopez, donc il en est à son troisième procès, Manu Dibango.
Et alors, il réclame des millions et des millions.
Ben oui, parce que la première fois, il avait pas gagné ce qu'avait rapporté vraiment la chanson à Michael Jackson. Il avait juste eu un dédommagement. Donc là, il trouve que ça commence à bien faire.
Écoute, on vérifie. Faut quand même préciser que l'album Thriller de Michael Jackson s'est vendu à 104 millions d'exemplaires en 25 ans. 104 millions d'exemplaires dans le monde, c'est l'album le plus vendu au monde.
Absolument.
Alors évidemment, on peut comprendre Manu Dibango qui lui a seulement touché, enfin seulement, c'est déjà pas mal, vous me direz 1 million de francs de dommages et intérêts.
C'est 2 francs, tu vois, c'est 2 francs.
Voilà, puisque en tout, il y a eu 2 millions de francs versés, 1 million pour son éditeur et 1 million pour lui. Sauf que depuis, ça continue, évidemment. Et il dit, il faudrait peut-être quand même que ça continue pour moi aussi. Il n'y a pas de raison. Hein, c'est ça, Serge, j'ai bien résumé.
Exactement, oui, c'est ça. Mais il faudrait quand même un petit peu parfois se renseigner sur les crédits d'auteur. Oui. C'est ce que n'ont pas fait, justement, ni Rihanna, ni Jennifer Lopez, persuadés que c'est un morceau folklorique camerounais. Et je crois que Michael Jackson aussi, ils ont pensé que c'était du domaine public, ils se sont même pas enquis des droits d'auteur si quelqu'un avait écrit ça.
Ils ont surtout dit, les Africains, ils savent pas ce que c'est qu'un tribunal, on va pouvoir les couiller facilement, à mon avis.
Ouais, tu as raison. Alors que le droit d'auteur, c'est quand même un acquis de la Révolution française, des droits de l'homme, et que je pense...
Bon, ça va, l'intermittent, là.
Quel honneur, quand même, d'être pris par Michael Jackson, parce que moi, j'ai plus dansé sur Michael Jackson que sur Manu Dibango.
C'est vrai aussi.
C'est ce que me disent les enfants, mais je suis pas sûr que c'est bien. Quel honneur d'être pris par Michael Jackson.
On revient à l'Assemblée nationale. Ce week-end, les nerfs ont lâché, en effet, puisque certains députés ont raconté des histoires de chaussettes et de sous-vêtements parce qu'ils étaient bloqués le week-end à Paris. Un autre, on en a parlé tout à l'heure, a été accusé par une députée de la majorité de lui avoir montré sa braguette. Bref, que des conflits textiles.
Dans le corps législatif, on a les nerfs à vif et au palais Bourbon. L'opposition fulmine, la droite récrimine et nous embourbons. Un député déçu, rouspète, si j'avais su que ça dure si longtemps, j'aurais dans ma valise prévu plus de chemises et de sous-vêtements. Les socialistes ont dit que pour la blanchisserie, le défraiement est mince. Pour laver le linge sale, à peu de frais, rien n'égale un petit congrès de Reims. On a frôlé le drame l'autre jour quand une dame de l'UMP inquiète a crié « On m'agresse, un député PS m'a montré sa braguette ». L'autre a dit « Je proteste, je rajustais ma veste au moment de me lever ». D'un geste machinal, je vérifiais que mon futal était bien boutonné. Ce qui prouve que l'ouverture à droite s'applique bien sûr à Kouchner à Besson. Au magasin le dimanche, mais surtout pas en revanche à celle des pantalons.
Merci Serge. Je signale que vous serez demain à Charleville-Mézières.
Oui, et vous, vous serez à la neige. Faites attention de ne pas glisser. Hein.
Vous, vous serez à Charleville-Mézières pour l'édition du Festival d'humour Les Guignolades, 6e édition. Et nous, on sera à l'Alpe d'Huez pour le Festival Cinéma Comédie. Et venez nombreux au Palais des Congrès dans la salle Philippe de Broca. C'est normal, c'est une salle d'un grand réalisateur de comédie, Philippe de Broca. Et voilà pourquoi j'imagine son nom a été donné. On sera là-bas
d'accord,
entre 16h.
Moi, je serai à Marseille. Je suis en famille. Ne venez pas. Merci beaucoup.
Ah ben, il paraît que vous n'aimez pas être en famille. Alors, qu'est-ce que vous faites en famille à Marseille?
Si, je plaisante. Je fais ça pour paraître plus ignoble que je ne suis. Mais j'adore ma famille, moi. C'est là que je me ressource, comme disent les cons. Est-ce qu'il y a pire que de dire ça? J'aime bien ma famille. Parce que je l'aime, pas parce que je me ressource. Tu vois le genre.
Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Ah oui, là, il faut de la culture générale, c'est sûr, puisque aujourd'hui, jour de son anniversaire, un homme en long manteau et chapeau noir va se rendre sur sa tombe et déposer 3 roses et une bouteille de cognac à moitié pleine. Sur la tombe de qui ?
Un écrivain. Ok.
Zola, je veux dire Zola.
Aujourd'hui, jour de son anniversaire, un homme en long manteau et chapeau noir va se rendre sur sa tombe, et même à cette heure-ci, s'y est sûrement déjà rendu, et va déposer 3 roses et une bouteille de cognac à moitié
c'est
pleine.
C'est un poète ?
Poète, écrivain.
Voilà, donc...
Rimbaud ?
Non.
Attendez, on est quel jour ?
C'est Hugo ?
Non mais on cherche qui.
C'est pas Victor
possible,
Hugo, aujourd'hui on est le 19 janvier.
Voilà, d'accord, c'est alors... C'est...
Ah, c'est Ronsard ?
Non.
Non.
Ah ouais.
Le mec, il fait semblant de connaître les dates de naissance de tous les poètes. 19 janvier, ouais, c'est Ronsard.
C'est pas Baudelaire.
C'est pas Baudelaire, mais il y a un rapport avec Baudelaire.
Alors, attends.
C'est Verlaine, non ?
Non. Car c'est Baudelaire qui l'a fait découvrir aux Français.
Ah, il est anglais ?
Alors, il n'est pas anglais.
Américain ?
Américain.
C'est un grand poète ?
Ah, écoutez, oui, je suis sûr que Christine adore en plus.
Francky Vincent ?
Oui. Putain, je pensais à la même chose. Je sais pas pourquoi.
Non, mais attends, les
il est pas américain.
Les Américains, mais j'aime que ça, les écrivains américains, sauf qu'ils sont tous ceux que j'adore sont nés évidemment après.
Bah moi je dis n'importe quoi, les Tennessee Williams, non, il était
mais
pas
non, né. Bien sûr que non, il était mort Baudelaire est mort bien avant.
C'est le 200e anniversaire de sa naissance. On est en plein bicentenaire pour tout vous dire. Et pour vous aider.
En 1809, fastoche aux États-Unis.
Décédé.
Victor Hugo.
Décédé en 1849.
Il fallait le dire tout de suite, il est mort très jeune.
À l'âge de 40 ans.
Est-ce que c'est pas celui qui a. Est-ce que certains de ses écrits ont été adaptés au cinéma ?
Alors, ah, c'est. Christine
Fitzgerald qui.
Non.
Ah ben non, Scott c'est Fitzgerald. Bien après. Mais non, c'est bien après.
Non.
Je peux peut-être américain. Vous lire quelques.
Ah, quelques vers. Lisez-nous des vers en anglais.
Alors, non, pas en anglais, mais. Stephen King. Des traductions, certaines phrases. Je sais pas moi si je vous dis par exemple parce que la tortue a le pied sûr est-ce une raison pour couper les ailes de l'aigle. Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent
pas. C'est pas John de La Fontaine ?
Non.
Attends, est-ce que c'est un Indien ?
Quand un fou paraît tout à fait raisonnable, il est grandement temps, croyez-moi, de lui mettre la camisole. Non. Faut savoir que l'équipe de foot de Baltimore, en son hommage, s'appelle les Ravens. Les Ravens.
Attends, Baltimore Ravens, ouais.
Bah oui. Jérémy Raven.
Non mais non. Qu'est-ce que ça veut dire Ravens ? R-A-V-E-N-S.
C'est un oiseau, c'est une sorte d'oiseau.
Ouais, Ravens. Sont des...
Des aigles.
Coucous, c'est coucous.
Des
birds.
Non.
Anthony Birds.
Des Ravens sont des corbeaux. Bon.
Ah. Ok, très bien. Alfred Hitchcock.
Non.
John mais Corbeau.
Enfin, John Corbeau.
Ah, j'ai honte, hein.
John Corbeck.
Attendez. Est-ce que...
Je vais prendre monsieur Hautepierre au téléphone tout de suite. Jean Hautepierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Ne dites rien pour l'instant, mais vous avez vu comme quoi finalement c'est utile les bicentenaires, parce que on s'aperçoit que voilà quelqu'un qui a besoin d'être réhabilité et même connu du plus grand nombre, parce que manifestement autour de la table on sèche.
Alors, les commémorations sont comme les vœux, elles permettent de reprendre contact avec les personnes.
Qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider encore ?
Peut-être parler des histoires.
Oui, voilà. Parler des histoires.
Celles qui ne sont pas ordinaires.
Edgar Poe.
Edgar Allan Poe. Bonne réponse de Christine, bravo.
Ah ouais. C'est dingue.
Moi aussi.
Je devenais
bravo,
dingue,
moi aussi, j'aurais... je pensais qu'il était anglais aussi.
Edgar Allan Poe était bien américain, on est d'accord.
Il était bien américain, oui, étant dit qu'à l'époque, la langue littéraire américaine était extrêmement proche de l'expression anglaise, hein, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
Évidemment.
Oui. Merci Pierre de nous avoir laissé répondre.
C'est bien Baudelaire qui l'a fait découvrir en français, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Oh, Titoff.
Comment ben, je parle
quand même, vous avez déjà entendu parler d'Edgar Allan Poe, quand même.
Oui, Edgar, oui.
Quel rapport avec les corbeaux, excusez-moi.
Je crois qu'il y a une nouvelle qui s'appelle Les Corbeaux.
Le Corbeau, c'est le bien corbeau. Ça
C'est un poème. C'est le poème le plus célèbre d'Edgar Poe, qui lui a donné véritablement un succès à l'époque. Hein. À l'époque, il était à la fois un journaliste, un littérateur.
Et c'est Baudelaire qui a traduit ce poème, parce qu'évidemment, un poème en langue anglaise,
ça s'appelle The Ravens.
Il commence comment déjà ce poème?
Once upon a midnight dreary.
While I pondered, wake and weary, over many a crank.
Ah, il est allemand en fait,
Aujourd'hui, Edgar Poe est mort deux fois.
C'est moins bien en français qu'en anglais, monsieur.
C'est plus joli en anglais.
Monsieur Autepierre, non?
Oh, bah, si vous permettez, je vais vous lire le début, oui.
Allez-y.
Une fois, par un noir minuit, usant une force qui fuit sur main volume, étrange et précieux de savoir oublier, dodelinant, presque dormant, j'entendis un bruit faiblement, comme si doucement eût gratté ma porte. C'est quelques visiteurs, pensais-je, qui frappent ou qui grattent à ma porte. Cela est rien, non, rien de plus. Voilà la première strophe dans ma traduction.
Ça. Vous pouvez appeler RTL tout de suite parce que faire
vous,
la même chose.
Parce que vous-même, vous-même, monsieur Autepierre, vous êtes traducteur d'Edgar Allan Poe.
Oui.
Comme Baudelaire, finalement.
Merci.
Christine, c'est, alors franchement, on a tort
c'est
de ne pas connaître.
C'est vachement bien et surtout, il y a une ambiance, quoi. C'est un écrivain d'ambiance qui raconte des histoires effrayantes. Moi, j'adorais raconter ça à mes enfants quand ils étaient petits pour qu'ils aient peur, tu vois.
Vous n'avez pas besoin de raconter. Hein.
Dernière question, monsieur Autepierre, pour en revenir effectivement à mon énigme de départ. Qui est cet homme en long manteau et chapeau noir qui se rend chaque année sur la tombe d'Edgar Allan Poe et il dépose trois roses et une bouteille de cognac à moitié pleine? Et pourquoi trois roses et pourquoi une bouteille de cognac à moitié pleine?
Eh bien, personne ne sait puisque c'est secret. Je parle de son identité. Pour la bouteille de cognac à moitié pleine, je suppose que c'est une allusion à l'alcoolisme d'Edgar Poe qu'on a énormément exagéré et qui ne l'a jamais empêché d'ailleurs de mener des projets jusqu'à la fin. Et quant aux roses, je pense que c'est une allusion à la mention des roses dans un certain nombre de ses textes.
Pierre, en tout cas, je suis déçu. Hein. Je pensais quand même que vous auriez retrouvé...
J'avais occulté, comme on dit.
Surtout que c'est un auteur qu'on a dû enseigner là-bas, dans les écoles d'Oran, non?
Oui, bien sûr, c'était comme on avait pris des instituteurs du Havre, là, tu sais, pour enseigner ça.
Non, mais po. Oh, non. On va remercier monsieur Jean Autepierre, poète et traducteur d'Edgar Allan Poe à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'écrivain.
Merci à vous.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Yeah.
Get on Your Boots, c'est le nouveau single du nouvel album de U2 que vous entendez sur Europe 1 aujourd'hui. Pierre, vous qui avez découvert U2 il y a deux jours.
U2 ?
Voilà. C'est Bono et sa bande. L'album, faudra patienter, Pierrot, hein, pour l'acheter quand même. Dans les bacs, le 2 mars seulement. Et le CD sera accompagné d'un livret de 24 pages.
24 pages à bouquiner, dis donc, il y en a plus qu'à la fin de l'année, là, du 2 mars.
Sur U2, voilà, avec ce nouveau single, Get on Your Boots. Ah, si je vous dis que monsieur Collet vient de battre un hindou, en faisant quoi?
C'est dans le
un
film hindou. Slumdog Millionnaire.
Non, rien non. à voir.
Mais le battre, dans quel sens?
Ah, c'est il a été plus fort qu'un hindou.
Oui, monsieur Collet a été plus fort qu'un hindou, et ça n'est pas de la boxe.
Il a réussi à vendre une rose dans un restaurant.
Ça y est, les clichés. Alors, si on peut se lâcher sur les clichés, il a attrapé une vache, il a charmé un serpent, vas-y, on fait tout ce qu'il faut.
Monsieur Louis Collet vient d'entrer dans le livre Guinness des records.
Il a jacté pendant 4 jours. Ouais, c'est le discours, non-stop.
124 heures sans s'arrêter de parler. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et effectivement, le record était pour l'instant détenu par l'hindou Yahya Simsha Ravirala.
Ah, c'est lui?
Qui était champion du monde en titre avec 120 heures. Monsieur Collet l'a battu de 4 heures. Bonjour, Louis Collet.
Bonjour.
Bravo pour votre performance, quelque peu sportive finalement.
Merci.
Félicitations,
beaucoup.
Monsieur. Tous les Français sont fiers de vous, vraiment.
Bravo.
Et moi, je voulais dire parler au lieu de jacter. Hein.
Le discours le plus long, 124 heures. Vous avez réussi à battre aussi Pierre Benichou, il fallait le faire.
Merci.
Mais 124 heures, c'est combien de jours?
C'est 5 jours.
Mais c'est 6 jours ensemble et 5 nuits. C'est 5 nuits, puisque j'ai démarré le lundi 12 janvier à 10h du matin.
Voilà, dans la salle du buffet de la gare de Perpignan.
Et voilà, vous êtes où, monsieur de Perpignan?
Vous aviez l'accent avant le discours, ou c'est une blessure que...
vous savez pourquoi la salle de la gare de Perpignan?
Bon, à cause de Salvador Dali, évidemment.
Ben, c'est le centre du monde.
Évidemment.
C'est le centre du monde.
Donc vous avez commencé le 12 janvier, vous avez terminé le 17 janvier.
Ouais, c'est ça, le samedi à 14h. Hein.
Devant trois huissiers,
deux grands chanteurs catalans que nous adorons ici, un pays catalan, qui sont Jordi Barre et Albert Bueno.
Ils
sont arrivés au final, et les pompons girls des dragons catalans.
Mais qu'est-ce que vous avez dit pendant 124 heures? Bon, est-ce que vous n'êtes pas un peu répété?
On se répète, mais c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, c'est-à-dire que bon, moi j'ai mes aides-mémoire. Hein. Et alors voilà, ben j'ai discouru de la fabuleuse histoire humaniste très avancée des Catalans jusqu'à la culture millénaire des plus raffinées des Catalans, vous voyez, du comte Guifré à nos jours, au TGV. Alors tout ça, bien sûr, bien, c'est un discours, c'est en poésie, et puis aussi,
c'est fini, monsieur.
Ouais, je voulais demander par là.
Il tente de battre à nouveau son record sur Europe 1.
J'avais une question toute bête, je voulais savoir. Quand vous avez terminé, est-ce que les gens ont demandé un rappel?
Une autre. Fabrice voulait vous poser une question.
Vous arrêtez pour boire et manger?
Un conférencier, il boit un coup, automatiquement, moi, il s'arrête de parler. Mais ça fait partie du jeu, ça.
Mais pipi caca.
Vous allez faire pipi, oui.
Pour bouffer, non. Alors, je veux dire, pour bouffer, bon, moi, j'avais mon pupitre sur la droite, j'avais mon micro, et ma table sur la gauche avec un autre micro.
On vous voit en photo, d'ailleurs, dans la presse aujourd'hui.
J'aimerais savoir quelle presse.
Ah, bah, par exemple, dans Métro, dans la presse gratuite, dans France Soir aujourd'hui aussi. On vous voit là, et vous en étiez à 74 heures au moment où vous avez été pris en photo.
Aujourd'hui dans France Soir. Bon, ça va alors. Et Métro, mais ça marche alors.
Il y en a une dans Tétu aussi.
C'est que le message est passé.
Alors, messieurs,
je vous dis, vous savez, je me suis jamais fait du mauvais sang. Je mangeais tranquillement. Alors, quand on parle, bien sûr, on réduit le ton de la voix. On parle de la cuisine, par exemple.
Mais attendez, vous avez dormi quand même, monsieur, pendant 6 jours?
Ah non.
Mais vous pouvez pas tenir 6 jours sans dormir, ça n'existe pas.
Ah non, il n'y aurait pas de record. Alors là, il y a 3 huissiers, il y a toujours eu des témoins qui peuvent prouver.
Justement, qui vous a écouté pendant 124 heures? Est-ce que quelqu'un l'a fait, ou est-ce qu'il y a eu un relais finalement?
Ah non, mais ça, bien sûr, il y a toujours eu des relais. Alors, il y avait une équipe qui était toujours
personne
là.
Personne n'a été capable de vous écouter pendant 124 heures.
Il y en a un qui a essayé de... qui est resté assez longtemps, mais il s'est endormi. Le matin, il était endormi devant moi.
Qui vous a fourni?
Fabrice, une dernière question à monsieur Collet.
Pourquoi vous avez des lunettes de soleil?
Bah, c'est lunettes de vue, hein.
Ah, d'accord.
Oh, ouais. Et alors, c'est, bon, et c'est des Ray-Ban, et... on me dit que ça, on me dit que ça me va bien, ça fait cool, hein.
C'est vrai.
Oh, ouais.
Est-ce que vous avez parlé de l'adoption de Johnny Hallyday, de sa deuxième petite fille?
Non, parce que ça rentre pas dans le thème des Catalans. Ah,
parce qu'il paraît qu'il va avoir deux autres petites filles parce que la deuxième paire est gratuite.
Non, c'est mais moi, je suis un fan de Johnny, hein. J'aime bien Johnny, hein.
Pour vos besoins, puisque c'était une question.
Ben, j'avais le petit coin à côté, juste derrière moi, mais un ça, sans problème. Hein,
et vous continuiez à parler pendant.
Ben oui, ben on, sinon on chantonne, et voilà.
Ouais.
On chantonne.
Allez, tous cette continuité. Ah, d'accord, chantonner.
Vous savez que la France est fière. Je pense que vous recevrez un télégramme de Nicolas Sarkozy dans la journée. Monsieur Louis Collet.
Bravo.
Dans le livre Guinness des records.
Et pensez à vous brosser les dents quand même, parce qu'après 5 jours sans s'arrêter, comme ça, c'est.
Oh non, mais le matin, rapidement, je faisais ma petite toilette, hein, les craintes, hein. Mais je veux dire.
Ah, mais vous faisiez tout normalement alors.
Mais
finalement.
On peut se laver les dents et parler en même temps. Hein, je veux dire.
Pierre, peut-être vous devriez relever le défi. Je suis sûr que vous en êtes capable.
Ah oui, moi, 124 heures, c'est de la tarte pour moi, mais enfin quand même. Mais, moi, non, je suis obligé de m'arrêter de temps en temps.
Allez-y, je relève.
Pour signer quelques autographes.
Une dernière question, monsieur.
Oui.
Vous vous faites chier dans la vie.
Oh non, au contraire, je m'amuse.
Allez, on vous applaudit, on vous remercie.
Vraiment, vous êtes chouette.
Et continue de parler.
Ah bah oui,
et continue.
En permanence, hein.
Vous êtes chouette, hein. Ah, mais...
Il est toujours là. Oh, ouais. Appuyez sur le bouton.
Rappelez d'une chaîne.
D'autant que Paul Vermus tente de nous joindre pendant ce temps-là. Bonjour, Polo.
Eh oui, salut, ça va?
Vous étiez au courant de ce record, Paul?
Oui, mais je salue ce personnage. Hein.
Je savais pas que vous aviez été racheté, Paul Vermus.
Ah, par les Russes?
Oui, par la famille Pougatchev.
Eh oui, on va bientôt les rencontrer d'ailleurs. On a une réunion demain.
Le père Sergueï Pougatchev a racheté l'épicerie Édiard et le fils Alexandre vient de racheter France Soir et donc Paul Vermus.
Bon, maintenant je vais me mettre aux Russes quand même, hein.
Oui.
C'est peut-être plus prudent.
Si vous voulez garder votre place.
Oui.
Vous avez des scoops?
Bah, ça dépend, vous voulez quoi?
Si vous voulez garder votre place.
Vous voulez de l'étranger? Vous voulez de la politique?
On voit d'abord Michelle Obama, puisque tout le monde parle du président des États-Unis et de son épouse.
Elle s'est confiée, Laurent, à sa meilleure amie. Sa meilleure amie, c'est Lisa Mundy.
Moi aussi, je peux inventer des noms.
Bah, attendez, vous prenez Internet, vous regardez Lisa Mundy, vous allez voir qu'elle publie un livre qui s'appelle sur la First Lady, qui est en tête des meilleures ventes outre-Atlantique. Alors, soyez gentils, mettez pas ma parole en doute, hein.
Et qu'est-ce qu'elle dit alors sur la présidente?
Qui va l'habiller?
Tous les grands couturiers ont proposé des médailles. Tous.
Ça, on sait.
Ah bon? Oui, tous. Alors maintenant,
elle peut aller partout maintenant avec le titre.
Non, qui va l'habiller demain, là?
Attendez, ça sera... Alors bon, même les couturiers français les plus prestigieux...
Il sait pas. Non, mais écoutez, il va peut-être s'en sortir, là.
Attendez, simplement, ce que je peux vous dire, moi, c'est que ce sera obligatoirement un couturier américain.
Oui, voilà. Moi aussi, je peux le dire.
C'est Oscar de la Renta qui l'habille.
Non, c'est pas sûr, parce qu'il y a des jeunes maintenant derrière lui.
Non,
lui,
c'est pas sûr.
Bon, revenons en France, parce que Michel Obama, manifestement, c'est pas votre sujet. Jean-Claude Van Damme, là il y a plus une approche philosophique, je suis sûr.
C'est pas qu'il y a une approche philosophique, mais vous allez le voir beaucoup dans les prochains jours. Figurez-vous qu'il est revenu en France, qu'il vient de tourner un spot publicitaire qu'on verra dès le 8 février.
Ouais.
Ce spot va être diffusé 1300 fois sur les chaînes de télé privées. Et c'est un spot pour une célèbre marque française de literie, où on le voit sauter sur un lit. Mais ce spot va être multidiffusé comme on l'a rarement vu. Donc c'est surtout en France.
Karim Achoui, l'avocat toujours en prison.
Alors
il y a un problème. Bon, vous savez qu'en attendant sa demande de mise en liberté, le 21 après-demain, il est toujours incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre. Hein. Bon, alors c'est vrai qu'il y a un comité de soutien, il y a des gens qui signent des pétitions pour sa libération. Il faut savoir que l'appel, c'est pas avant 2010, hein, le procès d'appel. Donc pour l'instant, il est dans la prison, dans la maison d'arrêt de Nanterre. Et le directeur a été chapitré pour lui rendre quand même le séjour un peu plus agréable, hein, pour améliorer sa détention. Il devrait prochainement, s'il n'est pas libéré, retrouver un quartier, ce qu'on appelle un quartier VIP. Hein, il devrait bénéficier d'un quartier VIP. Alors, il y a un vrai problème. Il n'y en a pas à Nanterre où il est, Laurent. Allô?
Oui.
Non, mais vous m'écoutez.
Vous dormez, excuse-nous.
Bien sûr.
Non.
On a un concours à proposer, Paul Vermus, si tu veux.
Il faut fermer sa gueule le plus longtemps possible.
Écoutez, à Nanterre, il n'y a pas de quartier VIP.
D'accord.
À Fresnes, les gardiens sont encore sous le choc de l'évasion de Ferrara. Donc, ils veulent pas entendre parler de Karim Achoui. À la Santé, il y a un quartier VIP, bien sûr, mais il y a le dénommé Rudy Terranova, qui est soupçonné d'avoir essayé de tuer l'avocat Karim Achoui. Oui. Il est incarcéré là. Mais on a peut-être trouvé une solution. Figurez-vous que le préfet Marchiani a été gracié par le président.
Sa cellule est libre, donc.
voilà, et là, sa cellule est libre et on pense qu'il va la récupérer. Voilà l'histoire.
Ah,
alors, là, c'est intéressant quand même. Vous pouvez pas me dire que vous l'avez vu quelque part. C'est inédit, c'est original.
Ouais. On s'en fout, mais c'est inédit, ouais.
Bon, moi, je vais vous parler. Écoutez, j'ai passé mon week-end au salon de la lingerie.
Ah, voilà, il fallait commencer par là.
Après Louis XVI,
voilà,
et toutes
alors,
les
je vous signale que le salon de la lingerie, c'est jusqu'à mercredi, Laurent. Vous pouvez toujours y aller.
Porte de Versailles.
Porte de Versailles, bien. Alors, je vais vous parler des grandes tendances, quand même, c'est important. Hein. Oui. Ouais. Alors, bon, il faut savoir que la culotte et le boxer, bah, ça supplante le string cette année.
Pour les hommes ?
Oui, non, c'est joujou, hein, c'est rien.
Mais non, mais je la comprends pas pourquoi le boxer, ça supplante le string.
Non !
Ça supplante le string. Écoutez un peu si vous êtes sûr, hein.
Ça supplante, ça remplace.
Voilà, oui, d'accord, mais c'est pas les mêmes personnes qui portent les boxers et les strings,
si,
je veux dire.
C'est ce qu'il est en train de dire, que le string.
Le string qui rentre arrive, c'est ça.
Moi, je mets toujours un string sous
le boxer pour femme.
Je mets un string sous mon boxer.
Ah, c'est ça, d'accord.
Mais non, mais c'est pour femme, ce
boxer, ça monte toujours sur le string.
Toujours.
Bon, alors, écoutez, je vais vous donner quand même d'autres grandes tendances. Retour sur le devant de la scène du corset, de la guépière, du body. Mais il y a.
L'abbé Pierre?
Mais non,
body, c'est super, c'est long jupon.
Non, mais j'ai pas parlé de l'abbé Pierre, j'ai parlé de la guépière. Alors, il y a deux grandes tendances, Laurent.
Il y a deux grandes tendances.
Il y a deux grandes tendances. Il y a le baroque. Oui. Alors, le baroque, ça privilégie des couleurs comme le violet, que vous aimez bien, Laurent, le jaune, le rouge, ou le retour en force de la dentelle. Et la deuxième tendance, qui est quand même très intéressante et qui devrait intéresser nos femmes ici autour de la table, le végétal.
Ah oui, la culotte alimentaire.
Non, donnez des lettres de noblesse aux matières naturelles, Laurent. Le coton bio, par exemple. Ah. Une chose qui marche très très fort.
Parce qu'il y a qui se mangeait, moi.
C'était mieux, ouais.
Non, ça se mange. Le sous-vêtement en fibre de coco ou de bambou, ça cartonne très fort.
Moi, j'ai un bambou dans mon sous-vêtement.
Oh non.
Quel prétentieux.
Les sous-vêtements bio, Laurence, donc fibre de coco, bambou, etc.
Oui.
Ben, ce secteur est moins touché par la crise que le secteur textile.
Ah non, ça, je vais vous dire, crise ou pas crise, tu mets toujours une culotte, hein. Ça.
Oui, bien sûr.
Polo.
Enfin, et sachez que là, c'est une information précise, la consommatrice, donc, salon du sous-vêtement, de la lingerie, dépense 100 euros par an, ce qui n'est pas rien, hein.
Oh.
Et elle se situe en deuxième place en Europe, hein. Mais si vous aimez les salons, il y a un autre salon étonnant, Laurent.
Ah oui.
Qui va ouvrir prochainement, qui est le plus grand salon d'Europe de la voyance. Ça vous intéresse ou pas?
Le plus grand salon d'Europe de la voyance.
Oui, c'est à l'espace Champéret à partir du 12 février.
Est-ce que Christine Bravo a un stand? Parce que vous savez que maintenant, elle a des
flashs.
Elle a des flashs.
Ouais. Je ne sais pas si elle a des flashs, mais je peux vous parler de toutes les nouveautés. Hein.
Ah ouais, allez-y.
Bon, alors déjà, il faut savoir qu'il y a 10 millions de Français qui consultent chaque année astrologues, voyants, cartomanciennes, spirites, tout ça. Hein. Mages, gourous.
Qu'ils aillent au salon du linge. Comme
mais
ça,
non.
Ils auront des slips grands gourous.
Tous ces voyants, et là c'est pour montrer.
C'était pour conclure, Paul.
Ouais,
allez, on se retrouve, on n'a plus le temps, on se retrouve demain à 16h. Depuis l'Alpe d'Huez, venez nombreux évidemment
et
au
oui.
Palais des Congrès.
À demain, en direct de l'Alpe d'Huez, c'était Laurent Ruquier, toute son équipe évidemment. Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr.